Et je veux parler de la résurrection. Je veux parler de la puissance de la résurrection. Parce que la résurrection, c'est le fondement du christianisme. C'est le fondement de notre foi. Parce que Jésus est ressuscité, ça change tout. Et parce qu'il est ressuscité, il nous donne une vie remplie d'espérance. Et ça nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 17 à 19, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Si seulement c'est pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Et je vous rappelle que lorsque les femmes sont arrivées au tombeau, et en passant, les femmes étaient les dernières à la croix. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Les femmes étaient les dernières à la croix et les premières au tombeau. Et l'ange leur a dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Jésus est vivant et parce qu'il est vivant, tout peut changer. Et parce qu'il est vivant, ça change tout. La résurrection te donne accès à une vie en abondance sur la terre et au ciel. Est-ce que je peux commencer par le ciel? La résurrection, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus a accepté de mourir sur une croix pour toi, ça va changer ta façon dont tu vas passer l'éternité. Ça va changer la façon dont tu vas passer l'éternité. Jean chapitre, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 à 26, ça dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et en fait, la vraie fondation de notre foi, c'est de savoir que peu importe ce que je vis sur cette terre, c'est notre plus grande espérance. La Bible nous dit que nous sommes une vapeur et que nous allons passer l'éternité dans la présence de Dieu. On va passer l'éternité dans un lieu où il n'y a plus de larmes, de peur, d'injustice, de douleur, d'anxiété, de finances, de tout ça. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et je veux te dire ce matin, je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu, mais je peux te dire qu'un jour, nous allons rencontrer notre roi. Et ça va être la fête au ciel pour l'éternité. La résurrection, ça change tout. Ça change comment nous allons vivre notre vie sur la terre et au ciel. Mais en fait, ça change aussi aujourd'hui comment la résurrection, c'est pour toi dans ton quotidien. 1 Pierre chapitre 1, verset 3, ça dit, « Dans son grand amour, c'est Dieu qui parle, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. » Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit que le voleur est venu pour tuer, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, il dit, je suis venu pour te donner la vie et te donner la vie en abondance. Tu as accès à la vie en abondance pour l'éternité et ici-bas sur cette terre. Ça peut pas être la meilleure nouvelle que je te dis ce matin. Tu as accès à une vie en abondance pour l'éternité et sur cette terre. Mais, si on est honnête, la vie éternelle s'est acquise à la croix. Si, et je t'encourage, si tu viens ici depuis quelques, peut-être semaines, peut-être c'est la première fois, et que tu ne connais pas Jésus personnellement, je t'encourage à aller à l'espace bienvenue et de dire, moi, je veux aller plus loin dans cette relation-là. Je veux, si tu n'as pas encore reconnu que Jésus était mort sur la croix pour tes péchés, si tu ne l'as pas fait sauveur et seigneur de ta vie, parle à quelqu'un, sors à la fin de la célébration et dis, moi, je veux aller plus loin avec Jésus. Mais si tu connais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as accès à la vie éternelle. Et ça, c'est acquis. Par contre, la vie en abondance que Jésus t'offre, c'est un choix. Ça dépend de tes choix. Ah, oh, c'est plus silencieux. Je pense que vous m'aimez mieux avant. Dans Deutéronome, chapitre 30, versets 19 à 20, c'est Dieu qui parle, il dit « Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie. » Il y a des conséquences à nos choix. Dans le verset 15, ça dit « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et c'est fou parce que dans le même chapitre, ça nous dit « Ce commandement n'est certainement pas au-delà de tes forces. » Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu peux choisir la vie. Qui veut choisir la vie? C'est un choix. Et je veux faire une nuance, ça ne veut pas dire que des fois on vit des défis, on vit des choses difficiles et c'est parce qu'on a subi les choix de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, en ce qui nous concerne, tu peux choisir la vie et avoir cette vie remplie de bénédictions. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand je lis ces passages-là, je me dis, Stéphanie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment je peux choisir la vie dès demain? Lundi matin, comment je peux choisir la vie? Comment tu peux choisir la vie? Une façon, c'est de mettre Jésus en premier dans ta vie. Une façon, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Ça donne du discernement pour choisir la vie. C'est marcher aussi selon ses commandements, ce qui plaît à Dieu. Je choisis la vie. Mais ce matin, j'aimerais te donner deux façons, dans deux aspects de ta vie, très, 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 très concrètement, des choix que tu peux faire qui vont te donner cette vie en abondance. Tu es avec moi, Nouvelle Vie Québec? Amen. Quels sont ces choix que je veux te proposer? Premièrement, le premier choix où tu peux choisir la vie, tu as le choix de regarder à tes limitations ou regarder au potentiel que Dieu a mis en toi. Je répète, tu as le choix de regarder à tes limitations ou regarder au potentiel de Dieu et au potentiel que Dieu a mis en toi. Précisons, il y a une différence entre des limitations et des limites. C'est sain, S-A-I-N, de se mettre des limites. Par exemple, si la famille, tes enfants, c'est une priorité dans ta vie, tu peux dire à ton patron, je mets une limite, je ne vais pas travailler 12 heures par jour. Tu comprends? Alors, dans notre vie, Dieu nous appelle à mettre des limites. Mais des limitations, c'est différent. Une limitation, c'est comme se mettre, la définition, c'est une action de se fixer des frontières. Et je crois sincèrement aujourd'hui, si je pouvais vous regarder dans les yeux, chacun d'entre vous, que Dieu veut, dans votre vie, repousser certaines frontières. Dieu a des plans pour ta vie. Et il veut te donner cette vie en abondance et il veut repousser tes limitations. Qu'est-ce qu'une limitation? Moi, je viens d'une famille, en fait. Ma mère m'a beaucoup aidée à repousser des limitations dans ma vie. Elle vient, elle, d'une famille de 13 enfants. Et sa mère lui disait toujours, « Toi, t'étais pas... » Bon, je ne juge pas sa mère. Après 13 enfants, moi aussi, peut-être que j'aurais trouvé que 13, c'est assez difficile. Mais elle, malheureusement, elle lui a... Moi, après deux, je trouvais que c'était suffisant. Amen. Et elle lui disait, tu n'étais pas voulu, ainsi de suite. Et c'était toute une question de culture. Et en plus, à cette époque-là, qui n'est pas si lointaine, les femmes avaient moins accès à l'éducation. C'était plutôt les hommes. Et ma mère aurait rêvé de faire de hautes études. Donc, tout le long de mon enfance, ma mère nous disait à ma sœur et moi, les filles, vous devez aller plus loin, aller au bout de votre potentiel. Et c'est ce qui m'a motivée à faire de hautes études. Et lorsque je suis arrivée dans le domaine pharmaceutique avec des médecins autour de moi, des tout ça, je n'avais pas de limitation. Et, et ça m'a aidée à entrer dans cette vie en abondance. Ce qui m'a aidée en 2000, quand j'ai laissé cette carrière-là et que je suis rentrée dans le pastorat à devenir une oratrice, je ne sais pas si vous trouvez qu'il y a peu de femmes qui apportent la parole, mais en 2000, il y en avait encore moins. Et autour de moi, il y avait des limitations. Mais parce que ma mère m'a enseigné à repousser mes limitations, ça m'a aidé à entrer dans la destinée de Dieu pour ma vie. Est-ce que toi, ce matin, tu te mets des limitations? Est-ce que Dieu te met des projets, peut-être d'une business, peut-être de retourner à l'école, peu importe, et tu te dis, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis pas assez riche, je suis pas assez... Toutes ces limitations-là. Et je crois aujourd'hui que Dieu t'appelle peut-être à faire cette réflexion-là et te dire, David, Daniel, Luc, Catherine, peu importe ton nom, est-ce que j'ai une limitation, ce qui m'empêche de rentrer dans cette vie en abondance-là? Tu as un choix de regarder à la limitation extérieure ou regarder au potentiel de Dieu. Mais je vais faire un pas plus loin. Peut-être que vous allez mieux m'aimer dans cette partie-là, mais je vais aller jusqu'au bout. Et tu sais, il y a des limitations qui sont extérieures, que les gens nous ont mis ou qu'on se met dans physique, c'est extérieur. Mais il y a des limitations qui sont intérieures. Je vais commencer doucement, OK? On va apprivoiser la chose. Par exemple, tu peux te dire, qui en janvier s'est inscrit à un gym? Dieu t'emmène avec moi, il fait noir dans la salle, je ne vous vois pas. Alors, confesse, lève ta main, tu dis, je veux. Et qui, trois semaines plus tard, tu as abandonné, et peu importe, et tu t'es dit, dans le fond, Stéphanie, ça ne sert à rien que je m'inscrive dans un gym. Je ne suis pas sportive. Tu commences à accepter quelque chose dans ton esprit. Tu as déjà posé une limitation que Dieu voudrait faire, mais des fois, les limitations, on les accepte, mais des fois, on les défend. Je sais que ici vous êtes hyper spirituel. Donc, je vais dire que c'est plutôt je vais partir d'une nation autre que le Québec, OK? Et tu peux arriver au bureau et péter un câble, et te mettre en colère, dire des choses que tu regrettes. Dis, t'emmène. Dis, relax, je ne parle pas de toi. Je parle de quelqu'un dans un autre pays, toi. Et là, tu peux être en colère puis avoir dépassé les bornes. Puis là, tu arrives dans ton moment de prière, mais tu dis, Seigneur, nous, là, on est colérique de génération en génération dans ma famille. En défendant nos limitations, parfois ça nous empêche d'entrer dans la destinée, dans la vie abondante que Dieu a pour nous. Ça peut être dans ton mariage. Moi, là, je ne sais pas comment aimer mon mari, ma femme. Je n'ai jamais eu de modèle dans ma vie. Et ça peut être vrai. Mais Dieu a le potentiel, s'il lui demande. Tu dis, Seigneur, viens repousser mes limitations. Ça peut être jusqu'à la toxicomanie, tout ce qui est dépendance. Nous, on est dépendants à l'alcool, on est dépendants des substances dans ma famille de génération en génération. Mais sais-tu quoi? La Bible nous dit qu'il peut emmener la bénédiction de génération en génération. Nous sommes plus que le fruit de notre génétique. Tu es plus que le fruit de ta génétique. La Bible dit que tu peux choisir la bénédiction et emmener la bénédiction de génération en génération dans ta maison, dans ta vie, dans ta destinée. Mais il faut être honnête devant Dieu. Seigneur, est-ce que j'ai des limitations qui sont externes, internes? Et il y a tellement un beau verset dans Éphésiens qui nous dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, non pas en vos pères, en vos mères, en votre passé, en les choses que les gens ont dit sur vous. C'est en Jésus qu'on est instruits, c'est par sa résurrection qui peut nous transformer. Il dit, on a été instruits à nous dépouiller, eut égard dans notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt dans les convoitises trompeuses, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, à revêtir l'homme ou la femme nouveau, selon Dieu, dans la justice et la sainteté, la vérité. Dieu, ce matin, est capable de te donner la force de te revêtir de la femme ou de l'homme nouveau, que les limitations puissent être repoussées de ta vie. Il y a un homme qui s'appelle Thomas Edison. C'est un, peut-être vous le connaissez de nom. Thomas Edison, c'est un scientifique bien connu. C'est lui qui a inventé l'ampoule électrique. Et il dit, il a écrit une citation. Ben, il a, je le cite, mais il a écrit un texte. Et dans ce texte-là, c'est écrit « Beaucoup d'échecs dans la vie proviennent de gens qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. » Et je voudrais te dire que tes limitations aujourd'hui, tu peux regarder à tes limitations, mais tu peux regarder au potentiel que Dieu a mis en toi. Si je pouvais descendre dans l'allée, chaque allée, puis je te dirais, Dieu t'a donné tel don, Dieu t'a donné cette grâce, Dieu t'a donné la gentillesse, l'abondance, tout ce que tu peux imaginer, tu as du potentiel. Dis à ton voisin, tu as du potentiel. Et malheureusement, dis à l'autre, tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Qu'aujourd'hui, on puisse ne pas regarder aux limitations, mais regarder au potentiel que Dieu a mis en toi. Et tu vois, c'est ce que Edison a dit. Souvent, on arrête, on a des échecs, on ne va pas dans cette vie abondante-là parce qu'on arrête avec nos limitations. Et ça, c'est une portion qui est intéressante. Mais savez-vous que Thomas Edison, ce grand génie-là, et ça arrive souvent aux grands génies, qu'il a été expulsé de l'école à l'âge de 8 ans. Alors peut-être que si tu n'es pas bon à l'école, tu n'as pas réussi, c'est peut-être parce que tu es un grand génie. Alors ne sous-estime pas ton potentiel. Alors ce grand génie-là a été expulsé par son enseignante et l'enseignante a dit de lui qu'il était stupide, brouillon et qu'il n'apprenait pas assez rapidement. Et cette charmante dame-là a remis une lettre à Thomas Edison et elle a dit, alors qu'elle l'a mis à la porte de l'école, elle dit « Tu donneras cette lettre à ta mère quand tu arriveras à la maison. » Est-ce que vous imaginez qu'à 8 ans, Thomas Edison avait des limitations? Et lorsqu'il a remis la lettre à sa maman a choisi de ne pas regarder aux limitations. Et savez-vous qu'est-ce qu'elle a dit, la maman, quand elle a pris la lettre? Elle a dit, votre fils, elle a dit à son fils, que l'enseignante disait, votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas assez de bons professeurs pour lui enseigner. Veuillez lui enseigner vous-même. Et parce qu'elle n'a pas regardé aux limitations, elle l'a enseigné lui-même et Thomas Edison est devenu le grand et célèbre Thomas Edison. Ne regarde pas à tes limitations. Et c'est fascinant parce que la biographie nous dit que quelques années plus tard, quand sa mère est décédée, Thomas Edison a eu accès à la vraie lettre, ce qui était réellement écrit. Voulez-vous savoir ce qui était réellement écrit sur la lettre? C'était écrit « Votre fils est brouillon, il pose trop de questions, on détecte qu'il y a une maladie mentale, nous ne sommes pas d'accord qu'il revienne à l'école. Cette femme-là a choisi d'écrire une nouvelle lettre qui a changé l'histoire de Thomas Edison. Je veux te dire ce matin que Dieu peut réécrire la lettre de ta vie. Peu importe ce que les gens ont dit, tes professeurs, ton père, ta mère, quelqu'un qui a posé des gestes de mort ou dites des paroles de mort, la lettre peut être réécrite lorsque tu choisis de regarder au potentiel de Dieu, au potentiel que Dieu a mis en toi et non à tes limitations ou aux limitations que les gens ont mises sur toi. Thomas Edison a dit à la fin de sa vie, « Edison était un enfant pourri et stupide, mais grâce à une mère qui croyait en lui, il est devenu un génie. » Comment choisir la vie? Premièrement, tu as le choix entre regarder à tes limitations, défendre tes limitations, justifier tes limitations, ou tu as le choix aujourd'hui de regarder au potentiel que Dieu a mis en toi. Deuxième choix, tu as le choix pour vivre, avoir cette vie en abondance, de regarder à tes obstacles ou regarder à celui qui ferait un nouveau chemin. Lorsqu'on marche sur la vie, vous savez, vous êtes prêts pour une grande révélation? J'ai une grande prophétie à vous faire, Nouvelle Vie Québec. La prophétie que j'ai pour vous, c'est que la vie est difficile. C'est une grande prophétie. Que sur le « en ce moment, nous vivons », il y en a eu à travers l'histoire de l'humanité, bien sûr, mais nous vivons en ce moment une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Des guerres, tout ce qui est au niveau financier, les jeunes se loger, tout ce qui peut, la planète qui est complètement sans dessus-dessous, c'est extrêmement anxiogène. Il y a beaucoup aussi de problèmes de santé mentale, beaucoup de défis pour les jeunes enfants, de toutes sortes aussi, à l'école, de toutes sortes. Et des fois, sur le chemin de la vie, on a l'impression, même si je veux choisir la vie, je pense que personne ne veut choisir les défis et les obstacles. Amen. Et sur le chemin de la vie, je veux choisir la vie, mais j'ai l'impression que j'ai juste un gros rocher devant moi. N'est-ce pas? Voilà. Et peut-être que tu es entré aujourd'hui et que tu te dis, ouais, Stéphanie, je reçois, mais je veux choisir la vie, mais j'ai un défi. Peut-être comment mon fils il va réussir à l'école. J'ai un défi de santé. Je suis face à des défis qui me semblent insurmontables. J'ai peut-être tout essayé. On a échoué. Je ne trouve pas de solution. Et parfois, sur la course de la vie, on a l'impression qu'on a le monde entier sur nos épaules. Voilà. Et un peu d'humour, parce que c'est vrai que des fois, on peut aimer Jésus de tout notre cœur, mais sur le chemin, on a comme ces fardeaux-là sur nos épaules. Et ça devient difficile. On peut se sentir écrasé sur le chemin de la vie. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui. Tu peux marcher et regarder juste à tes défis. Et vous savez, moi, je suis quelqu'un qui... Je suis pas dans le déni. Moi, je suis une cartésienne, je suis une scientifique de formation. Donc, tu sais, il y en a qui moi, ils me voient, vous me voyez, je suis joyeuse, aimant la vie, là. Mais de par ma nature, je suis capable d'envisager tous les scénarios catastrophes. Est-ce que je suis la seule? Je sais que vous êtes très spirituelle ici. Vraiment, je vais dire à Pasteur JP comment vous êtes... beau, aimant Jésus, mais... Et on peut avoir tout, je suis très réaliste, on peut envisager des scénarios qui sont négatifs. Et moi, je ne vis pas dans un monde de bisounours, de licornes, de sucre d'orge. Tu sais, je sais très bien, pour avoir fait du counseling pastoral pendant 20 ans à l'Église Nouvelle Vie, combien il y a des défis. Et je ne le dis pas à la légère de dire, je choisis la vie, peu importe ce que je traverse. Mais je peux vous dire une chose, par contre. Que lorsqu'on reste nos yeux que fixés sur ce gros caillou-là, on perd l'espoir. Et ça devient un jour, ça devient un choix. Je choisis, non pas de regarder juste à ce défi-là, mais je choisis de regarder à celui qui est capable de créer un nouveau chemin à travers ma famille, à travers ma vie, à travers mon travail. Il est capable, parce qu'il est mort et ressuscité, il est capable de frayer, de contourner une roche. Il est capable. Mais ça, c'est un choix de dire, qu'est-ce que je regarde? Proverbes chapitre 16, verset 9, ça dit « L'homme projette de suivre un tel chemin. » Et c'est bien, et Dieu nous donne d'être responsable, de faire des démarches pour résoudre des problèmes. Mais la Bible nous dit que Dieu dirige nos pas. Je veux le dire de tout mon cœur. Quelqu'un, tu dis « J'ai tout essayé, j'ai pas de solution pour cette situation-là. » Dieu est capable de te donner une nouvelle solution. Pour avoir été au cœur d'un labyrinthe, des fois, tu vois à droite, à gauche, tu as l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Dieu est capable de créer une porte de sortie et te donner une solution. Le psaume 121, c'est écrit, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? » Et c'est fou parce que moi, j'ai lu souvent en disant, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où va venir le secours? » Que ça va venir de là, mais non. C'est écrit, je lève les yeux vers les montagnes. Et le psalmiste s'est dit, mais d'où va venir mon secours? C'est un point d'interrogation. Il se pose la question. Et c'est peut-être à toi ce matin. Mais la Bible nous dit que le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il y a un secours pour toi ce matin. Et je veux t'encourager à choisir de regarder à celui qui ferait un nouveau chemin. Tu sais, le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont été délivrés de l'esclavage, Dieu avait une terre promise pour eux, un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu te fait la même promesse de cette vie en abondance. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait face à la mer Rouge. Et la mer s'est ouverte. Dieu a créé un nouveau chemin. Pensez-vous que c'était normal pour eux? Absolument pas. C'était une façon qu'ils n'avaient jamais envisagée. Les eaux se sont ouvertes. Quand ils ont eu faim, que la manne est tombée du ciel, pensez-vous que c'était le Uber Eats de l'époque? C'était absolument pour eux exceptionnel. Quand ils ont eu soif et que Moïse a frappé le rocher, que l'eau est sortie, pensez-vous que c'était Hydro-Québec qui avait mis un petit robinet là? C'était une façon surnaturelle, nouvelle. Si Dieu l'a fait à cette époque-là, est-ce que tu crois que Dieu a changé? Dieu est le même. Et des fois, mes amis, il faut croire ce qu'on lit dans la Bible, c'est-à-dire que si je crois que Dieu l'a fait, un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire, il peut le faire pour ta situation. Il est le même. Il n'a pas changé. Et je vais terminer avec cette dernière illustration-là. J'étais à chaque mois de mars, il y a une grande conférence à Paris qui s'appelle Shine. J'étais là en 2023. J'étais là en 2024, mais je vais vous raconter un témoignage qui a pris place en 2023. Et de plus en plus, je demande à Dieu. Vous savez, le prophétique prend toutes sortes de façons. Ce n'est pas toujours ainsi par l'Éternel. C'est dans le lieu secret où tu dis, Seigneur, parle-moi. Et ça, c'est pour tout le monde. On a accès à ça. Parle-moi, mets quelque chose sur mon cœur. Et j'ai demandé une parole pour cette conférence-là. Et le Seigneur m'a donné un passage dans la Bible et une parole que je devais apporter, un message que je devais apporter pour ces femmes-là. Et c'était, Dieu veut te faire enfanter. Enfanter spirituellement. Et là, j'étais convaincue. Et je commence la conférence, puis là, je dis, là, il y avait de l'effervescence, puis je dis, ah, Dieu veut nous faire enfanter. Et là, je disais, ceux qui ont 50 ans et plus, trouvez-vous que c'est une bonne nouvelle? Puis toutes les madames disaient, ah, non, on ne veut pas enfanter, tu vois. Et là, on rigolait comme, ah. Ouais, on rigole. Et bien sûr, c'était enfanter spirituellement. Mais depuis Montréal, le Seigneur m'avait dit, comme cette pensée, le ciel ne s'est pas ouvert en deux. Stéphanie, je te dis. Non, une pensée qui me disait, je ne veux pas juste les faire enfanter spirituellement. Il y a des femmes qui vont enfanter physiquement. Je veux guérir de l'infertilité des couples qui sont stériles. Et là, moi, je me dis dans mon grand cartésien, tout ce qui est cartésien, je dis, Seigneur, si c'est tellement la déception, Seigneur, il faut que tu accompagnes ta parole avec des signes et des miracles, comme c'est écrit dans la Bible. Donc, je me lance dans ça, puis à la fin, je dis, je pense qu'il y a des femmes que Dieu veut vous guérir. Et là, on a prié, des femmes qui ont eu la main, on a imposé les mains, plein de gens, et on a prié pour ces femmes-là. Et après la réunion, il y a quelqu'un, une amie, une femme du staff, elle est montée au bureau, et elle a emmené son amie avec elle. Et cette femme-là, elle était en fécondation in vitro depuis plusieurs années, déception, échec par-dessus échec. Et là, elle est arrivée à pleurer, puis elle a dit, Stéphanie, il nous reste un embryon. Un embryon, mais j'ai tellement peur d'essayer, d'être déçue. Qu'est-ce que tu penses? Mais j'ai dit, on va prier. M'a dit, le médecin a dit, si ça fonctionne, madame, c'est un miracle. Parce qu'avec tous les échecs que vous avez eus, c'est impossible. Fait que finalement, on a prié ensemble. Puis, elle est allée en fécondation in vitro. Et quelques semaines après, quelques mois après, même, elle a attendu vraiment que ça soit vraiment sûr. Et elle m'a écrit pour me dire que ça avait fonctionné et qu'elle était enceinte d'un bébé. Elle est enceinte de son bébé. Et je voudrais juste qu'on mette la photo. Si on peut mettre la photo derrière moi, s'il vous plaît. Regardez. Alors, c'est moi. Je vous présente Valentin. Et Valentin, si vous faites le calcul, il est né le 9 janvier 2024. Donc, de mars à janvier, ça fait 9 mois quand même. Hein? Et là, j'avais dit dans cette conférence-là, si vous tombez enceinte, écrivez-moi pour nous encourager dans la foi. Puis surtout, si vous avez une fille, vous allez l'appeler Stéphanie. Puis si c'est un gars, c'est Stéphane, tu vois. Valentin, on est un peu loin, je conviens. Et là, j'arrive et quelques temps plus tard, j'ai reçu un autre email d'une femme qui m'a dit « Stéphanie, je veux juste te dire, j'étais à la conférence Shine et puis maintenant je suis enceinte et elle m'a envoyé la photo et je veux vous présenter Nora, si on peut mettre la photo qui suit. » La prochaine diapositive. Ah, ben ça, c'est Maya. On a un peu plus loin, là. Alors, ça, c'est Maya. Et Maya, elle est née le 8 janvier 2024. Amen. Et comme si ce n'était pas assez, j'ai reçu un autre email. Et là, on peut mettre la photo. Mais la prochaine photo de Naya, est-ce qu'on peut. De Nora, on peut la mettre? Valentin? Ah, ben, ils ont eu confondu les bébés, les photos. Écoutez, peut-être confusion. Nous avons 3 bébés Shine, amen, qui s'appellent Valentin, Maya, Nora. Et là, et je finis parce que c'est trop beau. Comme si un, c'était déjà miraculeux, 2, c'est énorme, 3, à couper le souffle. Et là, je suis au podcast à table avec Annabelle. Les filles, vous pouvez écouter ça lundi, mercredi, vendredi. Et à table avec Annabelle, je commence à raconter le témoignage. Et là, je dis comment on avait eu 3 bébés chaînes, que c'était miraculeux. Et là, dans la semaine qui suit, je reçois un courriel. C'était marqué « Rectification des bébés chaînes ». Et c'est une femme qui écrivait que lorsqu'elle est venue à la conférence, elle essaie d'avoir un enfant avec son mari, qu'elle perdait, perte de sang. Et elle était avec sa belle-sœur aussi, qui était infertile. Ils ont prié ensemble. Et Dieu les a guéris toutes les deux. Et qu'elles ont eu 2 nouveaux bébés chaînes. Alors, on est à 5 bébés. Et pourquoi je vous dis ça? C'est pas que pour vous tomber enceinte. c'est juste pour vous dire que Dieu est encore capable de guérir. Dieu est encore capable de frayer un nouveau chemin. C'est, pour ces femmes-là, c'était impossible, à droite, à gauche, mais Dieu a fait un miracle. Aujourd'hui, ce matin, dans quelques instants, on va aller à la prière. J'ai mis devant toi la vie, la bénédiction. Choisis la vie. Est-ce que ce matin, tu as besoin de choisir, de regarder au potentiel que Dieu a mis en toi? Que ce matin, cet esprit t'a parlé pour des limitations externes ou internes. Il te dit, je suis capable de repousser ça pour te donner cette vie en abondance. Ou est-ce que tu es sur le chemin de la vie et que tu es face à ce rocher-là et que tu as besoin ce matin que Dieu vienne te renouveler dans ta foi, dans ton espoir, qu'il est capable de faire quelque chose de nouveau dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans ta carrière, dans les rêves, peut-être ton ministère que Dieu a mis sur ta vie. Alors, je vais vous inviter à vous lever et j'aimerais prier pour vous. Si on peut, on va chanter ce chant doucement. Et pendant qu'on va le chanter, je prie que le Saint-Esprit, parce qu'on est ici, hein, vous êtes tellement occupés, on n'est pas ici pour jouer à l'église. On est ici pour qu'il y ait une différence, que nous puissions sortir différents de ce lieu avec ce choix que Dieu va te donner la force de choisir la vie aujourd'hui. Alors, on va le chanter quelques fois et j'aimerais prier pour toi. Je t'adore. Je vous demanderai, si c'est possible, juste de fermer les yeux là où tu es. Et je vais respecter le temps qui m'est alloué, bien certainement, mais je ne voudrais pas quitter, terminer cette célébration sans avoir prié pour toi, là où tu es. Le Saint-Esprit est ici au milieu de nous. Et là où tu es, juste comme un signe à Dieu, de dire, c'est moi ça je veux. Est-ce que tu es venu dans ce lieu et que tu dis, Stéphanie, c'est moi, j'ai des limitations. J'ai des limitations dans ma vie et je voudrais choisir de regarder au potentiel, choisir de regarder, de repousser ces limitations, peut-être extérieures ou intérieures. Alors là où tu es, à main levée, juste lever la main, que je puisse prier pour toi. Lève-la bien haute, c'est une grande salle. Il n'y a pas de gêne, moi je suis la première. Que Dieu puisse repousser, enlever des limitations de ta vie. Amen, on est plusieurs. Garde ta main, peut-être tu auras les deux mains levées. La prochaine appel que je veux faire pour toi, peut-être que tu es venu ici et que tu es face à ce gros rocher dans ta vie et que tu as besoin que Dieu renouvelle ta foi aujourd'hui, que Dieu vienne te donner le don de la foi, de voir les choses qui ne sont pas encore comme elles vont devenir. Alors là où tu es, dis, Seigneur, c'est moi. Je suis face à ce rocher. Lève ta main si tu as besoin que je prie pour toi. Lève-la bien haut de dire, Seigneur, Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur. Je viens avec l'autorité que tu me donnes dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes. Je prie que tu viennes souffler aujourd'hui sur eux. Tu leur donnes la force et la grâce de regarder à qui tu es, celui qui est tout puissant en ce moment, Seigneur. Tu viens briser des chaînes, Seigneur. Tu viens souffler dans les cœurs, vers l'avant, de l'arrière, chaque côté, Seigneur. Souffle par ton Saint-Esprit. Tu viens encourager, tu viens relever, tu viens fortifier, Seigneur Jésus. Je prends autorité comme toute pensée négative, toute pensée de mort, Seigneur. Nous appelons à toi la vie. J'appelle à toi la vie en abondance, Seigneur. Seigneur, je te prie pour des guérisons physiques, émotionnelles, spirituelles, Seigneur. Seigneur, tu ferais un nouveau chemin. Tu fais quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Tu donnes une nouvelle stratégie, Seigneur. Tu ouvres de nouvelles portes, Seigneur. Oh, Seigneur, je fais appel à toi. Et je sais que je sais que je sais que tu réponds aux prières. Et je te remercie à l'avance, Seigneur. Seigneur, je te remercie à l'avance pour ce que tu vas faire en ce moment. Tu souffles, tu donnes la paix. Tu donnes la paix, tu enlèves inquiétude, Seigneur. Tu donnes la joie, Seigneur. Tu donnes la joie, tu ferais un nouveau chemin. Alléluia, Jésus. Alléluia.